Jules Verne, César Cascabel, deuxième partie, chapitre 12. Voyage terminé et qui n'est pas fini. Telle était l'abominable machination qui se préparait contre le comte Narkin et la famille Cascabel. Et cela au moment où, après tant de fatigues, tant de périls, ce long voyage allait si heureusement se terminer. Deux ou trois jours encore, la chaîne de l'Oural serait franchie et la belle roulotte n'aurait plus qu'à descendre pendant une centaine de lieues vers le sud-ouest pour atteindre Perm. On le sait, César Cascabel avait formé le projet de séjourner quelque temps dans cette ville, afin que M. Serge eût toute facilité de se rendre au château de Valska chaque nuit et sans courir le risque d'être reconnu. Puis, suivant les circonstances, il resterait au château paternel, où il suivrait ses compagnons jusqu'à Nijni, peut-être jusqu'en France. Oui, mais dans le cas où M. Serge ne se déciderait pas à quitter Perm, il faudrait donc se séparer de Cayette, qui resterait avec lui. Voilà ce que se répétait Jean, ce qui l'accablait, ce qui lui déchirait le cœur. Et ce chagrin, si sincère, si profond, son père, sa mère, son frère et sa sœur le partageaient. Aucun d'eux ne pouvait se faire à cette pensée de ne plus voir Cayette. Ce matin-là, Jean, plus désespéré que jamais, vint trouver la jeune indienne, et lorsqu'il la vit, pâle, défaite, les yeux rougis par l'insomnie, « Qu'as-tu, Cayette ? » lui demanda-t-il. « Je n'ai rien, Jean, » répondit-elle. « Si, tu es malade, tu n'as pas dormi. On dirait que tu as pleuré, petite Cayette. C'est l'orage d'hier. Je n'ai pas pu fermer les yeux de toute la nuit. Ce voyage t'aura bien fatigué, n'est-ce pas ? » ?»« Non, Jean, je suis forte. Est-ce que je ne suis pas habituée à toutes les misères ? Cela passera. » « Qu'as-tu, Cayette ? Dis-le-moi, je t'en prie. » « Je n'ai rien, Jean. » Et Jean n'insista plus. En voyant ce pauvre garçon si malheureux, Cayette avait été sur le point de tout lui dire. Cela l'affligeait tant d'avoir un secret pour lui. Mais, le sachant si résolu, elle se disait qu'il ne saurait pas se retenir en présence de Kirchef et d'Ortic. Il s'emporterait peut-être. Or, une imprudence pouvait coûter la vie au comte Narkin, et Cayette se tut. D'ailleurs, après avoir longuement réfléchi, elle résolut de faire connaître à M. Cascabel ce qu'elle venait d'apprendre. Mais il fallait qu'elle pût se trouver seule avec lui, et pendant la traversée de l'Oural, ce serait difficile car il importait que les deux Russes ne fussent point mis en méfiance. Du reste, il n'y avait pas de temps perdu, puisque ces misérables ne devaient rien tenter avant l'arrivée de la famille à Perm. Leurs soupçons ne pouvaient être en éveil tant que M. Cascabel et les siens continueraient d'être pour eux ce qu'ils avaient toujours été. Et même, lorsque M. Serge eut appris qu'Ortic et Kirchef avaient manifesté l'intention d'aller jusqu'à Perm, il ne leur cacha point sa satisfaction. À 6 heures du matin, 7 juillet, la belle roulotte se remit en route. Une heure après, on rencontrait les premières sources de la Petchora, dont ce défilé porte le nom. Devenu au-delà de la plaine un des grands fleuves de la Russie septentrionale, ce cours d'eau va se jeter dans la mer Arctique, après un parcours de 1350 kilomètres. À cette hauteur du col, la Petchora n'était encore qu'un torrent lancé à travers un lit raviné et capricieux au pied des massifs de sapins, de bouleaux et de mélèzes. Il suffirait d'en suivre la rive gauche pour atteindre l'issue de la passe, tout en prenant certaines précautions. Sur les pentes trop raides, la descente devait s'effectuer rapidement. Pendant cette journée, Cayette ne put trouver l'occasion de parler en secret à M. Cascabel. D'ailleurs, ainsi qu'elle l'observa, il n'y avait plus de conversations à part entre les deux Russes, plus d'absence suspecte aux heures de halte. Et pourquoi l'eussent-ils fait, maintenant? Leur complice avait certainement pris les devants, et c'était au rendez-vous de Perm que se réunirait toute la bande. Le lendemain, bonne journée de marche. Le défilé, en s'élargissant, se prêtait plus aisément au passage de la voiture. On entendait la Petchora, très encaissée entre ses rives, mugir sur son lit de roche. La passe, qui qui présentait déjà un aspect moins sauvage, était aussi moins déserte. On rencontrait des trafiquants se rendant d'Europe en Asie, le ballot sur l'épaule, le bâton ferré à la main. Quelques bandes de mineurs, allant aux mines ou en revenant, échangeaient un bonjour avec les voyageurs. À l'ouvert des gorges apparaissaient quelques fermes, quelques villages, peu importants encore. Au sud, le Denechkin et le Kontchakov dominaient cette partie des monts Ourals. Après une nuit de repos, la belle roulotte arriva, vers midi, à l'extrémité du défilé de la Petchora. La petite caravane avait enfin franchi la chaîne et mis le pied en Europe. Encore 350 verstes, une centaine de lieues, et Perm compterait une maison et une famille de plus dans ses murs, comme disait M. Cascabel. « Ouf !» ajouta-t-il. « Une jolie trotte que nous avons faite là, mes amis. Eh bien, n'avais-je pas raison? Tout chemin mène à Rome. Au lieu d'arriver en Russie par un côté, nous sommes arrivés par l'autre, et qu'importe, puisque la France n'est pas loin. » Et pour peu qu'on l'eût pressé, l'excellent homme aurait soutenu que l'air du pays normand lui arrivait par-dessus toute l'Europe et qu'il le reconnaissait à ses senteurs marines. Au sortir du défilé se trouvait un zabodi, composé d'une cinquantaine de maisons et de quelques centaines d'habitants. Il fut décidé que l'on s'y reposerait jusqu'au lendemain, afin d'y renouveler certaines provisions, entre autres la farine, le thé et le sucre. En même temps, M. Serge et Jean purent se procurer du plomb, de la poudre, et renouveler leurs munitions qui leur faisaient complètement défaut. Et lorsqu'ils furent de retour, « En chasse, mon ami Jean !» s'écria M. Serge. « Nous ne reviendrons pas le carnier vide. En chasse !»« Si vous le voulez, » répondit Jean, plutôt par devoir que par plaisir. Pauvre garçon, la pensée d'une séparation si prochaine lui faisait prendre toute chose en dégoût. « Nous accompagnez-vous, Ortic ?» demanda M. Serge. « Volontiers, » répondit le matelot. « Tâchez de me rapporter du bon gibier, » recommanda Mme Cascabel, « et je m'engage à vous préparer un bon repas. » Comme il n'était que 2 heures après midi, les chasseurs avaient le temps de fouiller les bois d'alentour, et sous ces épais massifs, si le gibier ne venait pas de lui-même au devant des coups de fusil, c'est qu'il y mettrait peu de complaisance. M. Serge, Jean et Ortic partirent donc tandis que Kirchef et Clou s'occupaient des soins à donner aux rennes. Ces animaux furent bientôt installés sous les arbres dans un coin de prairie où ils pouvaient brouter et ruminer à leur aise. Pendant ce temps, Cornélia revenait vers la belle roulotte où la besogne ne manquait pas, disant « Allons, Napoléon ! Me voici, mère ! Et toi, Cayette ? À l'instant, Madame Cascabel ! » Mais c'était l'occasion que cherchait Cayette de se trouver seule avec le chef de la famille. « Monsieur Cascabel, » dit-elle en allant vers lui, « ma petite Caille, je voudrais vous parler. »«
Me parler ?»«
Secrètement. »«
Secrètement ?»
Puis mentalement il se dit, « que me veut-elle ma petite Cayette ? Serait-ce à propos de mon pauvre Jean ?» Tous deux se dirigèrent vers la gauche du Zavodi, laissant Cornélia occupée à la belle roulotte. « Eh bien, ma chère fille, » demanda M. Cascabel, « que me veux-tu et pourquoi ce mystère ?»« M. Cascabel, » répondit Cayette, « voilà 3 jours que je désire vous parler sans que personne ne puisse nous entendre, ni même s'en apercevoir. »«
C'est donc bien grave, ce que tu as à me dire ?»«
M. Cascabel, je sais que M. Serge s'appelle le comte Narkin. »«
Hein ? Le comte Narkin ?» s'écria M. Cascabel.
« Tu sais ? Et comment as-tu appris cela ?»« Par des gens qui vous écoutaient pendant que vous causiez avec M. Serge, l'autre soir, au village de Mougy. »«
Est-il possible ?»«
Et comme à mon tour je les ai entendus s'entretenir du comte Narkin et de vous, sans qu'ils s'en doutent. »«
Quels sont ces gens ?»«
Ortic et Kirchef. »«
Quoi ? Ils savent ?»
Oui, monsieur Cascabel, ils savent aussi que monsieur Serge est un condamné politique qui rentre en Russie pour y revoir son père, le prince Narkin.
Monsieur Cascabel, stupéfait de ce que Cayette venait de lui apprendre, restait là, les bras ballants, la bouche ouverte. Puis, après avoir réfléchi,
« Je regrette qu'Ortic et Kirchef connaissent ce secret, » répondit-il, « mais puisque le hasard leur a livré, je suis sûr qu'ils ne le trahiront pas. »
Ce n'est point le hasard qui leur a fait connaître ce secret, dit Cayette. Et ils le trahiront. Eux, d'honnêtes marins!
Monsieur Cascabel, reprit Cayette, le comte Narkin court les plus grands dangers.
Hein?
Ortic et Kirchev sont deux malfaiteurs qui appartenaient à la bande de Karnoff. Ce sont eux qui ont attaqué le comte Narkin sur la frontière alaskienne. Après s'être embarqués à Port Clarence pour passer en Sibérie, ils ont été jetés sur les îles Liakov, où nous les avons rencontrés. Ce qu'ils veulent du comte Narkin, dont la vie est en danger s'il est reconnu sur le territoire russe, c'est une partie de sa fortune, et s'il refuse, ils le dénonceront. Alors Monsieur Serge est perdu, et vous aussi peut-être.
Tandis que Monsieur Cascabel, accablé par cette révélation, gardait le silence, Cayette lui expliqua comment les deux matelots avaient toujours excité ses soupçons. Ce n'était que trop vrai qu'elle eût déjà entendu la voix de Kirchev. Maintenant elle se souvenait. C'était sur la frontière de l'Alaska, au moment où les deux scélérats attaquaient le comte Narkin, sans savoir, d'ailleurs, que ce fut un Russe réfugié en Amérique. Et alors, l'une de ces dernières nuits, pendant qu'ils étaient chargés de veiller sur le campement, Cayette les avait vus s'éloigner avec un homme qui venait de les rejoindre. Elle les avait suivis. Elle avait assisté à un entretien entre eux et 7 à 8 de leurs anciens complices. Tous les projets d'Ortic étaient dévoilés. Après avoir conduit la belle roulotte à travers ce défilé de la Petchora, où il était certain de rencontrer nombre de bandits, il avait résolu de massacrer M. Serge et toute la famille Cascabel. Mais depuis qu'il avait appris que M. Serge était le comte Narkin, il s'était dit qu'il valait mieux le contraindre à verser une somme énorme sous peine d'être dénoncé à la police moscovite. On attendrait qu'il fût arrivé à Perm. Ni Ortic ni Kirchev ne paraîtraient dans cette affaire afin de garder leur situation pour le cas où elle échouerait. Ce serait leur compagnon qui préviendrait M. Serge par une lettre, lui demandant une entrevue, etc. M. Cascabel ne parvenait que très difficilement à contenir son indignation pendant qu'il écoutait le récit de Cayette. De pareils coquins, auxquels il avait rendu tant de services, qu'il avait délivrés, nourris, rapatriés. Eh bien, c'était là un joli cadeau, une belle restitution qu'il faisait à l'empire du tsar. Si encore ils eussent été anglais, il aurait moins de regrets de les rendre à l'Angleterre. Ah, les misérables! Ah, les gueux!
Et maintenant, monsieur Cascabel, demanda Cayette, qu'allez-vous faire?
Ce que je vais faire, c'est très simple, petite Cayette. Je vais dénoncer Ortic et Kirchev au premier poste de Cosaque que nous rencontrerons, et ils seront pendus.
Réfléchissez, monsieur Cascabel, reprit la jeune fille. Vous ne pouvez faire cela.
Et pourquoi?
Parce qu'Ortic et Kirchev n'hésiteront pas à dénoncer le comte Narkin, et avec lui ceux qui lui ont donné les moyens de rentrer en Russie.
Au diable ce qui me concerne, s'écria M. Cascabel, s'il n'y avait que moi. Mais, M. Serge, c'est autre chose. Tu as raison, Cayette, il faut réfléchir.
Et alors, très agité, très perplexe, il fit quelques pas, se frappant du poing la tête pour en dégager une idée. Puis, revenant vers la jeune fille,
« Tu m'as dit, demanda-t-il, que l'intention d'Ortic était d'attendre notre arrivée à Perm pour faire agir ses complices ?»«
Oui, monsieur Cascabel, et il leur a bien recommandé de ne rien tenter auparavant. Aussi, je pense qu'il faut attendre et continuer le voyage. »«
C'est dur, cela, s'écria monsieur Cascabel, c'est bien dur. Conserver ces coquins avec soi, les emmener à Perm, ne cesser de leur serrer la main et de leur faire bon visage. » Ventre de mes ancêtres, il me prend des envies d'aller les happer au collet, de les écraser, comme ça, comme ça.
Et monsieur Cascabel, éloignant et rapprochant ses vigoureuses mains, comme s'il eût tenu Ortic de l'une et Kirchev de l'autre, avait l'air de jouer des cymbales dans un orchestre de foire.
Il faudra être maître de vous, monsieur Cascabel, reprit Cayette. Vous êtes censé ne rien savoir.
Tu as raison, ma fille.
Je vous demanderai seulement si vous jugerez à propos de prévenir M. Serge.
Non, ma foi, non, répondit M. Cascabel. Il me paraît plus sage de se taire.
Qui pourrait-il, M. Serge?
Rien, je suis là pour veiller sur lui, et je veillerai. D'ailleurs, je le connais. Pour ne pas nous compromettre plus longtemps, il serait capable de tirer à gauche quand nous irions à droite. Non, décidément non, je me tairai.
Et ne direz-vous rien à Jean?
« Agent, petite Cayette? Pas davantage. Il est ardent. Il ne pourrait se maîtriser en présence de ces deux abominables bandits. Il n'a pas le sang-froid de son père, il se laisserait aller. Non, pas plus à Jean qu'à Monsieur Serge.
Et Madame Cascabel ne la mettrez-vous pas au courant, dit encore Cayette.
Madame Cascabel, oh, c'est autre chose. Une femme si supérieure, si capable de donner un bon conseil, et même un bon coup de main. Je n'ai jamais eu de secret pour elle, et puis elle sait, comme moi, que Monsieur Serge est le comte Narkin, un fugitif.
Alors, Madame Cascabel?
Oui, je lui parlerai. À cette femme-là, on pourrait confier un secret d'État. Plutôt que de le trahir, elle se ferait couper la langue, et il n'y a pas de plus gros sacrifice pour une femme.
Oui, je lui parlerai.
Maintenant, retournons à la belle roulotte, dit Cayette. Il ne faut pas que l'on s'aperçoive de notre absence.
Tu as raison, petite Cayette. Toujours raison.
Surtout, monsieur Cascabel, contenez-vous devant Ortic et Kirchef.
Ce sera difficile, mais ne crains rien. On leur fera risette. Ah, les brigands, nous être souillés à leur contact impur.
Voilà donc pourquoi ils m'ont prévenu qu'ils ne se rendraient pas directement à Riga. Ils nous font l'honneur de nous accompagner jusqu'à Perm. Les malandrins, les papavoines, les Lassner, les Tropman.
Et monsieur Cascabel déroula toute la série des noms de scélérats fameux qui lui revinrent à la mémoire.
Monsieur Cascabel, fit observer Cayette, si c'est ainsi que vous êtes maître de vous.
Non, petite Cayette, ne crains rien. Me voilà soulagé, ça m'étouffait, ça m'étranglait. Je serai calme, je le suis déjà.
Retournons à la belle roulotte.
Canaille, va.
Et tous deux reprirent le chemin du Zavody. Ils ne parlaient plus. Ils étaient absorbés dans leurs réflexions. Un si merveilleux voyage sur le point de s'achever et qui était compromis par cet odieux complot. Au moment d'arriver, M. Cascabel s'arrêta.
« Petite Cayette, » dit-il.
« Monsieur Cascabel ?»«
Décidément, je préfère ne rien dire à Cornelia. »«
Et pourquoi ?»«
Que veux-tu ? J'ai observé qu'en général, une femme garde d'autant mieux un secret qu'elle ne le connaît pas. Donc, que celui-ci reste entre nous. »
Un instant après, Cayette était rentrée à la belle roulotte, et en passant, Monsieur Cascabel avait fait un geste amical à ce brave Kirchef, tandis qu'il murmurait entre ses dents.
Quelle face de monstre!
Et 2 heures plus tard, lorsque les chasseurs reparurent, Ortic reçut un chaleureux compliment de Monsieur Cascabel à propos du magnifique daim qu'il rapportait sur ses épaules. De leur côté, Monsieur Serge et Jean avaient abattu 2 lièvres et quelques couples de perdrix. Cornelia put donc offrir à ses convives affamés un excellent dîner, dont Monsieur Cascabel prit largement sa part. En vérité, cet homme était immense. Il ne laissait rien voir de ses préoccupations. Il n'avait pas même l'air de se douter qu'il eût 2 assassins à sa table, 2 scélérats dont les projets ultérieurs ne tendaient à rien moins qu'à massacrer sa famille. Oui, il fut de charmante humeur, d'une gaieté communicative, et lorsque Clou eut apporté une bonne bouteille, il but à la rentrée en Europe, à la rentrée en Russie, à la rentrée en France. Le lendemain, 10 juillet, l'attelage prit direction sur Perm. Depuis le débouché de la passe, il était probable que le voyage s'accomplirait sans difficulté et ne donnerait lieu à aucun incident. La belle roulotte descendait la rive droite de la Vichra, qui longe la base de l'Oural. Sur la route, des bourgs, des villages, des fermes, des habitants très hospitaliers, du gibier en abondance et bon accueil partout. Le temps, quoique très chaud, était rafraîchi au souffle d'une petite brise de nord-est. Les rennes marchaient gaillardement, en secouant leur jolie tête. D'ailleurs, M. Serge leur avait adjoint 2 chevaux de renfort achetés aux derniers avodis, et ils pouvaient enlever jusqu'à 10 lieues par jour. Vraiment, c'était là un heureux début de la petite troupe sur le sol de la vieille Europe. Et M. Cascabel eût été de tout point satisfait s'il ne se fût dit qu'il y ramenait 2 coquins avec lui.
Et dire que leur bande nous suit comme des chacals suivent leur caravane. « Allons, César Cascabel, il faudra encore jouer un bon tour à ces sacripants, là !»
C'était bien fâcheux, en somme, que cette complication eût troublé un plan si habilement combiné.
Les papiers des Cascabel étaient en règle. Monsieur Serge figurait dans son personnel, et les autorités russes le laissaient passer sans méfiance. Arrivé à Perm, il aurait eu toute facilité pour se rendre au château de Valska. Après avoir embrassé le prince Narkin, après être demeuré quelques jours près de lui, il aurait pu traverser la Russie sous l'habit de saltimbanque et se réfugier en France, où toute sécurité lui était assurée. Et alors, plus de séparation. Cayette et lui ne quitteraient pas la famille. Et plus tard, qui sait si ce pauvre Jean... Ah, vraiment, c'était peu que la potence pour les scélérats qui venaient compromettre un tel avenir. Aussi, malgré lui, M. Cascabel se laissait-il aller à des emportements incompréhensibles pour ses compagnons. Et lorsque Cornelia lui demandait « César, qu'as-tu donc ?»«
Je n'ai rien, » répondait-il.
« Alors pourquoi rages-tu ? » ?»«
Je rage, Cornelia, parce que si je ne rageais pas, je deviendrais enragé. »
Et l'excellente femme ne savait qu'imaginer pour expliquer l'attitude de son mari. 4 jours s'écoulèrent, puis, à une 60aine de lieues dans le sud-ouest de l'Oural, la belle roulotte atteignit la petite ville de Solikamsk. Sans doute, les complices d'Ortik avaient dû l'y devancer, mais par prudence, ni lui ni Kirchev ne cherchèrent à se mettre en rapport avec eux. Rostov et les autres étaient là, cependant, et ils allaient repartir dans la nuit, afin de gagner Perm, situé à une 50aine de lieues à l'ouest. Et alors rien ne pourrait empêcher l'abominable projet de s'accomplir. Le lendemain, dès l'aube, on quitta Solikamsk et, à la date du 17 juillet, la Kozva était franchie dans le bac de passage. En 3 jours, s'il ne se produisait aucun retard, la belle roulotte serait arrivée à Perm. Là devait commencer la série des représentations données par la famille Cascabel avant de se rendre à la foire de Nijni. Du moins, tel était le programme de cette tournée artistique. Quant à M. Serge, il prenait ses dispositions pour se rendre nuitamment au château de Valska. Que l'on juge de son impatience et aussi de l'inquiétude bien légitime avec laquelle il parlait de ces choses avec son ami Cascabel. Depuis qu'il avait été sauvé, pendant les 13 mois qu'avait duré cet extraordinaire voyage de la frontière alaskienne à la frontière d'Europe, il était sans nouvelles du prince Narkin. À l'âge qu'avait son père, ne pouvait-il tout craindre, même de ne plus le retrouver ? « allons donc, monsieur Serge !» répondait monsieur Cascabel. « Le prince Narkin se porte comme vous et moi, et même mieux. Vous le savez, j'aurais fait une excellente somnambule, je lis dans le passé et dans l'avenir. Le prince Narkin vous attend, en belle et bonne santé, et vous le reverrez dans quelques jours. » Et monsieur Cascabel n'eut point hésité à jurer que les choses se passeraient de la sorte, n'eût été la complication de ce gueux d'Ortik. Et il se disait « Je ne suis pas méchant, mais s'il m'était possible de lui scier le cou avec mes dents, je le ferais, et je croirais y mettre encore quelque modération. » Cependant, Cayette était de plus en plus alarmée à mesure que la belle roulotte s'approchait de Perm. À quelle partie s'arrêterait M. Cascabel ? Comment déjouerait-il les projets d'Ortik sans compromettre la sûreté de M. Serge ? Cela lui paraissait, pour ainsi dire, impossible. Aussi dissimulait-elle mal ses anxiétés, et Jean, qui n'était pas dans le secret, souffrait horriblement à la voir si tourmentée, si abattue parfois. Dans la matinée du 20 juillet, la Kama fut franchie, et vers 5 heures du soir, M. Serge et ses compagnons vinrent refaire halte sur la grande place de Perm, où des mesures furent prises pour une installation qui devait durer quelques jours. Une heure après, Ortik s'était mis en communication avec ses complices, et Rostov écrivait une lettre qui devait parvenir dans la soirée à M. Serge, lettre lui demandant une entrevue pour affaires pressantes et lui assignant un rendez-vous dans un des cabarets de la ville. S'il s'abstenait d'y venir, on verrait à s'assurer de sa personne, même en l'arrêtant sur la route de Valska. À la nuit tombante, lorsque cette lettre fut apportée par Rostov, M. Serge était déjà parti pour le château de Valska. M. Cascabel, qui se trouvait seul à ce moment, crut devoir paraître très surpris de l'arrivée de cette lettre. Mais il la prit en se chargeant de la remettre à son destinataire et se garda bien d'en rien dire à personne. L'absence de M. Serge avait contrarié Ortik. Il aurait préféré que la tentative de chantage se fît avant l'entrevue du prince et du comte Narkin. Mais il ne laissa rien paraître de sa contrariété, et, pour mieux dissimuler, lorsqu'il prit place à la table pour le souper, il se borna à dire
« Monsieur Serge n'est donc pas là ?»«
Non, » répondit Monsieur Cascabel, « il fait une démarche à propos de nos représentations près des autorités de la ville. »
« Et quand reviendra-t-il »
« Dans la soirée, sans doute. »